assistant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Florence Blondon, pasteur à la retraite.
Oui, bonjour Yolande et bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs.
Voilà, bonjour Florence, merci. Certains auditeurs vous connaissent déjà, car vous avez été pasteur ici à Montpellier de 2003 à 2008, c'est bien ça?
Exactement.
Voilà, puis vous êtes revenu ici à la retraite.
Oui.
Et on vous a déjà entendu prêcher au temple rue de Maguelone depuis votre retour.
Oui.
Donc une retraite occupée.
Un peu occupé, oui.
Voilà. Mais on va revenir en arrière sur votre parcours, puisque c'est ça qui nous intéresse ici, à un protestant peut en cacher un autre. Alors Florence, vous avez une origine arménienne.
Oui.
Est-ce que ça influence votre façon de voir ?
En tout cas, ça influence mon existence, c'est sûr, cette origine arménienne. Je suis d'origine arménienne et d'origine arménienne protestante, ce qui est assez rare chez les Arméniens, puisque la plupart des Arméniens appartiennent à l'Église apostolique arménienne, qui est une très très vieille Église, qui est même la plus ancienne, et les Arméniens en sont très fiers. Mais j'avais un grand-père, un arrière-grand-père plutôt, qui était pasteur en Arménie. Et donc du coup, petit à petit, ce protestantisme est arrivé jusqu'à moi.
D'accord, donc ça a vraiment influencé votre existence. Et puis, est-ce que ça a un rapport avec votre enfance dans un milieu salutiste ? Est-ce que c'était par le même créneau ou est-ce que c'était différent ?
C'est par le même créneau, en
D'accord.
fait. Parce que la famille de ma maman, qui est arménienne, ma maman était née en France d'ailleurs, quand ils sont arrivés en France, ils se sont retrouvés dans des camps de transit, on dirait maintenant, et l'armée du salut était très présente. Donc, cette famille étant protestante, a très rapidement fait connaissance avec l'armée du salut. Au départ, mes grands-parents ont créé l'église évangélique arménienne à Issy-les-Moulineaux, qui existe toujours d'ailleurs.
Ah oui ?
Oui, et puis petit à petit, ils sont restés très proches, mais ils ont quitté l'église évangélique arménienne. Je pense qu'ils avaient un désir que leurs enfants apprennent le français. Je pense que mes grands-parents ont fait un choix un peu radical, c'est-à-dire ils ont compris qu'ils ne pourraient jamais retourner en Turquie.
Ah oui.
L'Arménie à l'époque était soviétique, donc finalement ils ont fait une croix, on pourrait dire, sur un retour possible. Ils ont décidé que les enfants devaient être français, bien français. Donc très rapidement on a parlé français dans cette famille, y compris mes grands-parents, ce qui n'a pas été le cas de tous les Arméniens. Et donc ils sont allés vers une église où on parlait français.
Donc une intégration totale. Et vous parlez l'arménien ?
Eh bien pas du tout, c'est bien ça le problème de l'intégration totale.
Et oui.
Ça a permis vraiment à la génération de mes parents qui parlent encore arménien, c'est-à-dire il y avait 7 enfants, ils parlent tous ou ils baragouinent arménien, ils ne le lisent pas, puisque c'est quand même un alphabet assez spécial.
Comme le russe, c'est le même ?
Non, pas du tout, c'est un alphabet arménien qui est uniquement arménien, qui a été créé d'ailleurs pour traduire la Bible. Donc
oui,
c'est très intéressant l'histoire de l'Arménie et l'histoire de cet alphabet qui a été créé par un certain Mesrop Mastop.
On pourra faire une émission un jour là-dessus,
ouais.
Il faudra m'y faire penser parce que
volontiers.
C'est certainement très intéressant.
Oui, non mais l'histoire de la chrétienté en Arménie,
oui.
Et de l'Arménie est passionnante, en fait. Et donc ils ne savaient pas lire. Et puis, du coup, maman ne m'a pas appris à parler arménien. Elle s'est mariée avec un Français. D'ailleurs, ils sont tous mariés avec des Français ou des Suisses. Bon, ce qui est bien, hein, quelque
oui,
part.
Oui, mais bon, mais une acculturation, quand même.
Oui, je regrette un peu aujourd'hui. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'Arménie existe. C'est-à-dire
ouais.
que j'y vais régulièrement. Et puis comme c'est une langue assez compliquée quand même, j'ai un peu de mal
à... Ça ne se pratique pas par Duolingo ?
Non, Duolingo ne fait pas l'arménien, non.
Ah bon ?
Bon, j'ai appris l'alphabet parce que quand on prend le métro à Erevan,
ouais.
tout est écrit soit en cyrillique en russe, soit en arménien. Donc si on a envie de descendre à la bonne station, il faut savoir lire.
Il faut mieux savoir lire un peu. Alors, vos parents rejoignent l'armée du salut et donc vous êtes salutiste. Comment ça se passe pour des gens qui viennent d'Arménie et qui se retrouvent dans un milieu salutiste n'y a pas eu de problème. Vous étiez déjà protestant, donc ça c'est...
Bah, c'est surtout de la génération de ma grand-mère et de maman, et de mes parents, enfin du côté de ma mère. Parce que du côté de mon père, ils sont catholiques, mais ils n'ont pas eu trop le choix quand mon père a épousé ma mère. Ouais. Je crois qu'il n'a pas eu vraiment le choix. Mais donc, la génération de maman. Donc ma grand-mère a rejoint l'armée du salut avec mon grand-père. Les femmes sont très fortes quand même dans la famille. Hein. Je vais vous parler surtout de la grand-mère, de la mère. Oui. Bon, les hommes sont existants, hein, je dirais.
Oui.
Mais bon, je pense que les choix décisifs ont été faits par les femmes.
Et l'armée du salut, c'est un bon terreau pour les femmes.
Ah oui, tout à fait.
Ouais.
Donc ma grand-mère a rejoint l'armée du salut avec mon grand-père et les 7 enfants.
Ouais.
Et sur 7 enfants, elle a quand même 4 qui sont devenus officiers de l'armée du salut, c'est-à-dire pasteurs. Donc, mais je pense que l'intégration s'est faite très bien. C'est d'ailleurs, je veux dire, le côté accueil de l'armée du salut existe encore. Hein.
Oui, bien sûr.
Voilà, et donc c'est vraiment un lieu où les gens sont accueillis, quelle que soit leur origine. Donc aujourd'hui, c'est certainement dans l'armée du salut beaucoup l'accueil au niveau des Africains ou des populations quand même qui viennent de l'étranger. Bon, il y a aussi des Français, hein, je veux dire, à l'armée du salut.
Bien sûr.
Il y a même eu des grandes familles bourgeoises qui ont rejoint l'armée du salut. Mais il y avait cette espèce, il y a toujours d'ailleurs, un mélange qui est assez intéressant, moi, je trouve, et puis qui est assez évangélique, en réalité.
D'accord. Et alors, votre enfance, ça a été quand même un peu lourd au niveau, puisque vous êtes éloigné de ce milieu vers 18 ans.
Oui. Mais l'enfance n'a pas été lourde, hein. J'en garde même un bon souvenir.
Oui.
J'avoue que les camps, les colonies, ce qu'on appelait, ce qui correspond à l'école biblique, mais c'était un peu plus développé, c'était plus un patronage, la jeune armée, enfin, je veux dire, enfant, c'était pas du tout lourd. C'est après, à l'adolescence et surtout à l'entrée en l'âge adulte, c'était un peu compliqué. Puis à l'époque, l'armée du salut était un peu compliquée quand même.
C'est-à-dire prière interminable et ce genre de choses.
Oui, et puis quand même assez rétrograde, on va
dire.
Bon, dans les années 70, 75, oui, on peut pas dire que l'armée du salut était très ouverte sur les changements du monde.
D'accord.
On va dire ça comme ça.
Oui, parce que en même temps, dans le protestantisme, il y avait le planning familial, il y avait des tas de choses. Donc, je suppose que la défense du droit à l'avortement, etc., je suppose qu'à l'armée du salut,
c'était un peu compliqué à l'époque.
C'était compliqué.
Et je me suis retrouvée, en effet, beaucoup plus du côté, pas spécialement du planning familial, mais de certains mouvements féministes, oui. Et donc, du coup, j'avais un peu de mal à... Donc, j'ai laissé un peu de côté l'armée du salut. Mais j'ai jamais été... Je suis quand même très reconnaissante de tout ce que j'ai reçu dans ces années, particulièrement. Et du coup, ça m'a suivie, y compris en dehors de l'Église, hein, cette manière, le sens de l'engagement. Je pense qu'il y a quelque chose là de très fort et qui aujourd'hui se perd peut-être un peu. Je ne sais pas, je ne veux pas faire ma vieille qui regrette ce qui s'est passé avant. Mais en tout cas, moi j'ai reçu ça.
D'accord.
Est-ce qu'on le reçoit encore? Je ne sais pas. Voilà.
Et donc ça vous a apporté, qu'est-ce que ça vous a apporté sur le plan de la foi, cet héritage salutiste et de l'expression de la foi? Plus de liberté dans l'expression de la foi que dans les milieux protestants traditionnels?
Sur le moment, ça m'a plutôt bloquée. Mais après, par exemple, dans mon expérience de pasteur, ça m'a permis de parler en je. Ce que les protestants réformés ou luthéro-réformés ont un peu de mal à faire.
C'est-à-dire que j'ai toujours...
Mais même en faculté de théologie, on vous dit qu'il ne faut jamais parler de soi quand on prêche et tout. J'ai toujours parlé, pas que de moi, mais à partir de moi. De toute façon, on fait tous ça. Donc, de temps en temps, il y avait des choses de mon expérience personnelle. Je le fais à partir du moment où je pense que ça peut rencontrer l'autre. Je ne le fais pas pour me mettre en avant. Mais je me dis que, finalement, de temps en temps, partager une émotion, partager une difficulté, témoigner de ce qu'on a pu recevoir, c'est quand même fort. Et particulièrement dans la prédication, mais particulièrement avec les jeunes.
Oui.
Parce que je trouve qu'ils entendent vraiment quand on parle de nous, ça les rejoint ou pas, Mais d'abord, ils nous le disent. Et puis, il y a cette espèce de se présenter en vérité, quoi.
Oui, c'est-à-dire que dans le protestantisme classique, si on peut dire, ou historique, j'aime mieux l'expression historique, il y a souvent une espèce de pudeur qui fait que on ne veut pas parler de ses sentiments, on préfère avoir une sorte de barrière, une sorte de... Et ça, vous le regrettez. Enfin, vous, ou, du moins, vous ne réagissez pas de cette façon-là. Et c'est bien.
Et plus maintenant. Mais je dois dire qu'au début, oui. Quand j'ai connu, assez tardivement, hein, le protestantisme luthéro-réformé, quand j'ai fait cette rencontre, j'étais très heureuse de cette pudeur. Ouais. J'étais très heureuse qu'on ne me demande rien. J'étais très heureuse d'être un peu anonyme. J'étais très heureuse d'aller au culte sans qu'on me demande quoi que ce soit.
Ouais.
Et franchement, ça m'a permis, et ça a été des années de... où j'ai mûri, où j'ai grandi. Et quand je suis allée en faculté de théologie, j'étais très heureuse d'étudier et de ne pas avoir à prier. J'étais très heureuse de tout ça. Et puis, le jour où je me suis retrouvée pasteur, bon, ça a pris du temps et tout, même déjà avant, parce que je faisais du cathé et tout, je me suis aperçue quand même qu'il fallait que je me mouille un peu.
D'accord.
Que je ne pouvais pas rester derrière tout le temps cette pudeur, cette manière de mettre les choses à distance par la... par l'étude scientifique, par des choses comme ça. En même temps, ça m'a appris à respecter la pudeur de l'autre aussi.
Oui. Mais c'est intéressant ce que vous me dites particulièrement en ce moment, parce que j'ai interrogé il n'y a pas longtemps un pasteur qui a toujours été dans le milieu réformé et qui me disait un peu la même chose sur le manque d'engagement émotionnel des protestants. Et donc, comme quoi, finalement, il y a quand même une évolution qui se fait peut-être au contact d'autres courants, des courants plus évangéliques ou des courants plus, disons, plus qui n'ont pas peur de parler de leurs émotions. Donc, ça rejoint finalement l'expérience que j'ai eue avec cette personne. Et alors, vous avez parlé de femmes puissantes, donc... à l'armée du salut et déjà auparavant, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu dans quel sens elles étaient puissantes? Alors vous avez dit que c'était elles finalement qui décidaient un peu les choses pour les enfants, etc. Mais sur quel plan s'exerçait leur puissance en fait et leur liberté? Parce que vous parlez de femmes puissantes et libres, est-ce que vous pouvez détailler un peu?
Oui, alors évidemment, aujourd'hui, si on regarde leur vie... Je parlais là, au départ, de ma grand-mère et de ma mère, et de ma tante, enfin... Et
oui, de...
oui,
de
oui, c'était... enfin, des femmes qui m'ont entourée. J'ai eu l'impression quand même d'être élevée plus par des femmes que par des hommes, même si maintenant, je m'aperçois quand même que les hommes ont eu une grande importance. Mon père, mon grand-père, je ne l'ai pas connu, il est mort avant que je sois née. Mes oncles, qui ont quand même été, qui sont toujours d'ailleurs très importants. Mais c'est des femmes puissantes et libres. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on ne les verrait pas comme des femmes libres. Mais à l'époque, elles avaient pris suffisamment de liberté et en acceptant certains jougs, en fait, en réalité, ouais. Certaines contraintes. Mais ces contraintes, elles ne les ont acceptées que parce que sinon, si elles les avaient refusées, elles n'auraient pas pu exercer leur liberté. C'est ça qui est peut-être compliqué à comprendre aujourd'hui.
Je l'ai rencontré en fréquentant des milieux de l'Afrique du Nord.
Oui.
Avec des femmes, je faisais de l'alphabétisation dans une vie précédente. Et je l'avais rencontrée, ça, effectivement, où elles avaient l'air extrêmement soumises, ces femmes. Et en fait, où elles prenaient les décisions et les hommes le disaient en rigolant. Bon, elles ont l'air soumises, mais attention. Hein. Et effectivement, c'est peut-être plus oriental ou, enfin, je ne sais pas. C'est...
Bah, je l'ai rencontrée, moi aussi, en fréquentant des églises africaines
oui.
ou des femmes africaines. Ouais. Subsaharienne, comme on dit maintenant, mais avec des femmes quand même très 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 fortes qui savent mener des choses. Et alors pour en revenir à l'armée du salut, au sein de l'armée du salut, il y a bon alors pour que les auditeurs qui ne connaissent pas l'armée du salut le sachent, en fait à l'armée du salut on est officier, enfin ce qui correspond au pasteur, il faut que le couple, les deux soient officiers, soient passés par l'école militaire. Si on ne peut pas épouser un non-pasteur,
oui.
En réalité. Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont seules. Parce qu'elles
oui.
ont fait
pas
le choix.
Trouvé, oui.
Elles n'ont pas trouvé.
Oui.
Elles ont fait ce choix. Si un jour elles rencontrent un officier, elles peuvent toujours se
marier. Oui, bien sûr.
Mais en fait, moi, quand j'avais 17-18 ans, je trouvais que c'était quand même très bizarre, tout ça. Et puis un jour, j'ai rencontré des officières célibataires, qui étaient des femmes qui avaient la soixantaine à l'époque, et qui, quand elles parlaient de leur vie, disaient « Mais j'aurais jamais pu faire ça si j'étais mariée, si j'avais des enfants. » Alors elle dit, si j'avais été mariée et j'avais des enfants, j'aurais fait autre chose.
Oui.
Mais elles ont fait des trucs, elles m'ont raconté la manière dont, ce qu'elles avaient fait en Afrique, en France, et voilà, avec une liberté et, qui était quand même extraordinaire. Elles avaient fait ce qu'elles voulaient.
Ouais.
Évidemment.
C'était une époque où il valait mieux pas être mariée, finalement. Quand on voulait être femme libre... Il fallait mieux rester célibataire. Enfin bon,
peut-être,
ça, c'est un jugement de valeur de ma part.
Bon,
mais bon.
Je ne sais pas, parce que les officières mariées étaient quand même des femmes qui ne faisaient pas que s'occuper des,
oui.
des jeunes et des vieillards.
Ouais.
Comme, qui avaient vraiment un rôle. C'était des couples, en fait,
ouais.
avec une complémentarité. Et la femme faisait beaucoup, elle prêchait. Moi, j'ai toujours entendu des femmes prêcher.
Oui, ben justement, voilà. on va en parler, parce qu'après, vous êtes arrivée dans une église. Bon, les PUDF... peut-être l'Église réformée de France, d'abord.
Oui, c'était l'Église réformée.
Oui, c'était l'Église réformée de France, bon, qui ordonnait des femmes.
Oui.
Bon, déjà, ça s'était fait. Et en théorie, donc, elles sont les égales des hommes.
Oui.
En théorie. Mais est-ce que vous avez rencontré ici, à l'EPUDF, des difficultés à être femme pasteur ?
Bah, personnellement, aucune.
Oui ?
Moi, non, personnellement, aucune. Alors j'ai des collègues qui ont eu des difficultés, mais personnellement j'ai pas souvenir d'avoir eu aucune résistance. La seule résistance que j'ai pu avoir, c'est, je le raconte parce que c'est assez drôle en fait, quand je me suis présentée devant le conseil presbytéral du temple de l'Étoile, enfin de l'église protestante
ouais.
unie de l'Étoile à Paris, il y a un vote qui se
oui,
fait.
Oui, bien sûr.
Alors, j'y ai eu une voix contre.
Oui.
Et je sais très bien qui c'est, parce qu'elle me l'a dit après. Mais non, mais elle me l'a dit après. C'était une femme camerounaise
ouais.
qui a dit « Jamais une femme pasteur sera acceptée par la communauté camerounaise. » Et il y avait une grosse communauté camerounaise. Il y a toujours, d'ailleurs,
ouais.
À l'Étoile. Jamais. À peine je suis arrivée et j'ai marié des Camerounais, mais au bout de 2 mois, 3 mois, j'ai fait tous les enterrements camerounais et tout. Et finalement, après, elle me dit, mais alors vraiment, quand je pense que je ne voulais pas que tu viennes, donc bon, c'est devenu... Comme quoi, il faut aussi parfois donner du temps aux choses
pour que les gens apprennent. Mais les gens apprennent souvent au contact d'une personne.
Mm.
C'est-à-dire, ils ont des théories, ils ont des choses comme ça. C'est pareil pour beaucoup de problèmes de société.
Mm.
Et puis, quand ça leur arrive au contact de quelqu'un, eh bien, ils changent un petit peu leur fusil d'épaule, et heureusement. Alors, nous allons faire une petite pause musicale. Vous nous avez choisi Ararat.
Oui, Ararat.
Alors, expliquez-nous un petit peu pourquoi, rapidement.
Rapidement, bah, c'est un chant arménien, enfin, je veux dire, c'est de la musique arménienne contemporaine, enfin, c'est même de la variété arménienne, je dois dire. Et le mot, c'est Ararat, parce que le titre, c'est Ararat. Ararat, c'est le nom de la montagne emblématique arménienne.
Oui, bien sûr.
Oui, qui n'est plus en Arménie, qui est en Turquie, mais qu'on voit très bien d'Arménie. C'est même la première chose qu'on voit quand on arrive à Erevan, cette montagne gigantesque et imposante sur laquelle Noé se serait
échoué. Oui,
ben c'est
échoué. Effectivement
voilà.
la légende, ou enfin,
voilà.
C'est ce qu'on...
Mais disons que Ararat Sar, comme ça veut dire montagne en arménien, je connais quand même quelques mots.
Ah ben voilà. Okay.
Ararat Sar, alors... c'est vraiment bon, c'est mythique, c'est tellement important, et c'est vraiment une montagne magnifique.
On va écouter ce morceau, Ararat.
Rasta Ningo Menjan Hokuto de Kali Saints Genazi Heili Laile Lunujan Lelo Nujan Heili Laile Lunujan Akara Rata Akara Rata Akara Rata Akara Rata Himas Kanu Memkes Inchestu Hayo Tamar Merhokun Takavor nes mez hamar Hımum em yes kez amar Gen adı teyli ilay lel olucan Lel olucan heyli ilay lel olucan Ahar arata Ahar arata Ahar arada ahar arata
Ar ara Merisirun ararat Ar ara
Alors, on se retrouve avec Florence Blondon pour voir un petit peu la suite de son parcours. Alors, vous êtes venue assez tard au pastorat. Auparavant, vous avez exercé des responsabilités qui étaient complètement différentes. Je crois que c'était dans la gestion du personnel.
Oui, c'est ça. En fait, j'ai fait des études d'économie. J'ai eu un DEA à l'époque. D'économie du travail, très rapidement, je suis rentrée dans une entreprise et j'étais responsable du personnel. À l'époque, on appelle ça comme ça et maintenant on dit DRH.
Voilà.
C'est un bien
ressources
grand mot.
Humaines.
Voilà, ressources
voilà.
Humaines.
Oui.
Et c'est un bien grand mot DRH parce que l'entreprise était petite, mais disons que je gérais tout ça.
Et alors, ça vous a apporté quelque chose dans votre expérience de pasteur ou juste c'était formateur pour vous
C'est très différent des relations qu'on peut avoir après en église, mais disons que ça apprend quand même à avoir des relations avec les gens pour éviter tous les conflits.
Oui.
Voilà. Mais du coup, en église, c'est très différent parce qu'en église, on part du fait qu'il ne peut pas y avoir de conflit, ce qui est complètement faux.
Oui,
donc, alors là. Donc, voilà, les gens, donc, du coup, les gens ne savent pas affronter les conflits avant.
Oui.
Et essayer de désamorcer les choses avant. Et puis, je ne sais pas si c'est un avantage, mais en entreprise, il y a un peu d'hiérarchie quand même.
Oui.
Donc, avec les avantages et les inconvénients. Mais du coup, de temps en temps, il y a un peu le respect d'une certaine hiérarchie.
Ouais.
Et en église, non, pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. Donc, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas... Voilà, qu'on ne trouve pas une autre manière de s'entendre et de s'écouter. Voilà, j'ai trouvé que finalement, c'était plus compliqué en église qu'en entreprise.
Mais ça ne m'étonne pas parce que moi, je suis dans le protestantisme depuis l'âge de 22-23 ans. Et j'ai toujours trouvé des conflits et j'ai toujours trouvé des gens qui niaient les conflits et donc les conflits s'enveniment.
Oui, on part du principe qu'on est tous frères et sœurs.
Oui.
Seulement, les gens qui partent de ce principe-là n'ont pas très bien lu la Bible puisque
entre les frères et sœurs, c'est pas génial.
C'est pas génial. Non. Ça commence par un meurtre.
Voilà, ça commence par un qui tue son frère. Donc voilà. On peut pas dire.
Donc, je pense que ça s'apprend, la fraternité, la sororité. Enfin, je veux dire, les relations entre les êtres humains, ça s'apprend, ça se construit, il faut se mettre à l'écoute. De temps en temps, il faut mettre des limites. Enfin, tout ça est important et que la limite peut être positive. Faut pas... Et puis surtout, il faut arrêter de tout prendre de manière personnelle, quoi.
Ouais. Et alors, dans les facs de théologie, on n'apprend pas ça?
Pas du tout. Ah. Un peu maintenant.
Ah oui?
Un peu maintenant, mais bon, ça fait un bout de temps que j'ai quitté la fac de théo. Bon, j'ai accompagné un peu les pasteurs proposants, c'est-à-dire des nouveaux pasteurs pendant quelques années. Alors, on apprenait un peu le langage positif. Mais le langage positif, c'est très bien jusqu'à un certain seuil.
Ouais.
C'est-à-dire que vraiment le conflit commence à monter, le langage positif... Moi, j'y crois pas trop, hein, personnellement.
Bah, c'est comme la médiation.
Voilà,
c'est pareil. Moi, j'ai vu récemment une église qui se déchirait. On mettait de la médiation là-dedans. Les gens, ils n'avaient pas du tout envie de médiation et ça n'a rien apporté.
Rien. Ouais, c'est parfois compliqué. De temps en temps, il faut trancher.
Oui.
Un peu comme Salomon
propose. Oui, enfin, Salomon, il n'a pas été jusqu'au
bout. Il n'a pas été jusqu'au bout parce
parce qu'on l'a cru.
Parce qu'on l'a cru.
Ouais.
Parce qu'on a eu peur, justement, de ce tranchant. Donc, avant.
Ah ouais. Donc, il faudrait revoir un peu la façon. Il faudrait employer plus de DRH, finalement, dans l'Église protestante unie de France. Il faudrait au moins avoir une réflexion. Ça ne se fait pas.
Si, il y a une réflexion quand même sur la gestion des conflits.
Ouais.
C'est beaucoup mis en avant, mais en réalité, je ne suis pas persuadée que ça soit. En fait, je ne sais pas si les gens sont capables de le recevoir quand il y a vraiment un conflit en Église.
Oui, il faudrait le faire. Avant, en amont, une formation plus... parce qu'actuellement, ces médiations, c'est un peu ce qui se fait partout. Moi, j'ai vu ça en association aussi. On fait de la médiation. On fait la communication non violente, etc. Ce qui est très bien en principe, mais qui, des fois, ne résout pas les problèmes. Mais enfin, vous n'avez pas eu de problème à gérer particulièrement.
Oh, je dirais pas ça. Hein. Les gens qui connaissent l'église de Montpellier savent que c'est pas si simple. Mais disons que... Bon, peut-être que l'expérience que j'ai eue avant font que je prends pas les choses de manière personnelle.
Ouais.
Donc j'arrive à mettre de la distance. Donc je dis pas que ça me touche pas, mais ça me touche moins. Et puis ça m'ébranle moins. Et je pense que quand on arrive à mettre de la distance, ben on arrive à reparler à l'autre.
Ouais.
C'est-à-dire que l'autre, c'est pas mon ennemi, il pense pas comme moi, il a pas tout à fait les mêmes objectifs, mais voilà. Et puis, bon, du conflit, il y en a partout. Bon, mais c'est vrai qu'à Paris, j'ai eu beaucoup moins cette expérience-là. J'étais dans une paroisse qui roulait.
D'accord. Ben, on va justement parler de votre expérience de pasteur à l'Étoile à Paris. Alors, vous avez dit que vous aviez... Je l'ai lu dans je ne sais plus si c'était dans le CEP ou dans quelque chose à votre sujet, que vous étiez avec un pasteur qui était beaucoup plus libéral que vous et que c'était bien parce que vous pouviez avoir une... des positions un petit peu divergentes. Alors, quelle était plutôt votre position à vous par rapport à ce pasteur ? Je ne sais plus lequel
c'était. Ah, j'étais avec le pasteur Louis Pernaud.
Oui, c'est ça.
Voilà, qui est toujours pasteur à l'Étoile, d'ailleurs.
Oui, oui.
Avec qui je me suis vraiment très bien entendue. Je suis restée 15 ans, donc je suis partie parce qu'il fallait bien que je parte un jour. Mais...
15 ans, c'est déjà pas mal.
Oui, c'est bien.
Oui, donc, oui.
C'est beaucoup. Donc, et c'est vrai que sur le plan théologique, on n'est pas trop... Enfin, oui et non. On n'envisage pas... On n'a pas les mêmes problèmes.
Ouais.
Donc, on ne va pas traiter les textes de la même manière. On ne va pas prêcher de la même manière. On ne va pas s'adresser aux gens de la même manière. Moi, j'ai des... Lui, c'est un scientifique.
Ouais.
Donc, il cherche la vérité. Donc, il cherche... quand la vérité bute, c'est compliqué. Moi, en tout cas, moi, je n'ai pas la même notion de vérité. Je ne dis pas que je ne cherche pas la vérité. Je n'ai pas la même notion de vérité. Ce qui m'intéresse, c'est la relation dans la vérité. C'est ce qui fait, c'est ce qui donne la vie. C'est ce qui fait vrai. C'est ce qui sonne vrai. Ce n'est pas la vérité scientifique. Donc déjà, on a une approche différente. Donc forcément, du coup, de temps en temps, ça frictionne. De temps en temps, on s'entend. Et puis, bon, il est très libéral sur le plan théologique.
Oui.
C'est-à-dire que je vais simplifier les choses parce que ce n'est pas si simple.
Oui.
Et probablement qu'il est moins libéral qu'il ne le pense. Mais bon,
oui.
Ça, c'est un autre sujet. C'est à lui de voir. Mais c'est-à-dire qu'il aborde tout de manière assez symbolique.
D'accord.
Bon, alors déjà, je dois préciser que le symbolique, ce n'est pas un gros mot. C'est
oui.
bien.
Oui,
je veux dire, c'est le langage de la foi, de toute façon, le symbolique.
Bien sûr.
Donc, Donc, les gens qui disent c'est symbolique, ça fait sens quand même, le symbolique. C'est-à-dire, pour lui, on va parler des choses qui fâchent le plus, c'est-à-dire la résurrection.
Oui.
C'est symbolique. C'est des gens qui croyaient. Donc, ils ont vu le Christ, ils ont perçu la... toute l'importance de ce qu'ils avaient reçu et du coup ils veulent le transmettre. Est-ce que je pense que les ultralibéraux croient pas vraiment dans la résurrection du corps et de la chair du Christ, croient pas vraiment, mais maintenant au miracle, c'est-à-dire que pour eux, c'était le cas pour lui, mais je ne veux pas parler à sa place.
Oui, bien sûr.
Que, disons qu'un peu, les gens tels qu'ils les perçoivent, par exemple, Lazare, il n'est pas ressuscité. D'ailleurs, moi, je trouve qu'il n'est pas ressuscité non plus. Il est ramené à la vie, ce qui n'est pas tout à fait. Mais en fait, il n'était pas vraiment mort. Donc, quand on le sort, c'est une réanimation. Enfin, c'est des choses comme ça. La multiplication des pains, c'est très bien. Mais c'est tout le monde qui avait apporté un peu à manger, donc on le partage. Déjà, le partage, c'est merveilleux.
Oui,
voilà.
Oui.
Mais donc, en fait, il y a tout ça. Mais en réalité, moi, je pense qu'il y a vraiment eu des miracles. Je pense que Jésus est vraiment ressuscité. Mais en réalité, le problème, c'est le problème du sens que ça peut avoir pour nous aujourd'hui.
Oui, oui.
Et finalement, là-dessus, moi, je le rejoins. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça signifie que le Christ est ressuscité est ressuscité. Il est vivant pour moi.
Oui, oui, oui.
Je veux dire, encore aujourd'hui, de toute
façon.
C'est
souvent une question de mots aussi. C'est ce qu'on met derrière les mots.
Voilà.
En fait.
Et qu'est-ce que signifient ces miracles ? Je veux dire, que Jésus ait rendu la vie à un aveugle il y a 2000 ans, bon, c'est bien.
Oui.
C'est très bien.
Oui,
je le crois.
Oui, oui,
bon.
Oui.
Maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour moi ?
Bien sûr.
Bon, voilà. Et dans quel contexte c'est mis ? Enfin, je veux dire. Et donc, finalement, je pense qu'on se rejoint assez sur au bout du bout. Quel sens ça peut avoir pour moi aujourd'hui ? Parce que l'évangile, il a été écrit il y a longtemps, mais il a un sens pour moi aujourd'hui. Quel sens ça a pour moi aujourd'hui ? Et je pense que nos différences d'approche,
oui, bien sûr.
C'était une richesse pour les gens qui nous... Parce qu'on le disait franchement, des fois on prêchait à deux, ça les faisait rire beaucoup d'ailleurs.
Ah, vous donniez vos différences
Oui, on faisait des débats à deux en prédication, ou des fois en caté. Oui, mais ça permet...
Oui.
Ça permet aux gens de comprendre qu'il n'y a pas qu'une, il y a pas une manière de comprendre.
Oui. Oui.
Du coup, on n'impose pas, et c'est à eux de trouver leur chemin de foi, de vérité.
Oui, mais ça, c'est une démarche très protestante.
Il y a quand même eu du catéchisme très.
Oui.
Oui,
mais enfin, depuis toujours, on dit. Enfin, c'était les catholiques qui disaient ça, mais ils disaient trois protestants, quatre opinions.
Oui.
Bon, ce qui est un peu vrai.
Il faut reconnaître.
Et alors, vous avez été aussi présidente du diaconat.
Oui.
À Paris, donc toujours à l'Étoile. Et alors vous dites, je suis restée un peu sur ma faim. Pourquoi ?
Parce que c'était, à mon avis, notre action.
Alors le diaconat, on peut peut-être préciser ce que c'est.
Oui, c'est un service d'entraide, en fait.
Voilà.
Donc il y avait des choses intéressantes, mais c'était au départ beaucoup tourné vers leur versement d'argent à d'autres associations. Bon, les autres associations en ont besoin, très bien, je ne remets pas ça en cause, mais je trouvais qu'il était important qu'on se mouille, nous aussi, en tant qu'Église, que la parole, on l'annonce le dimanche matin, mais elle se vit aussi en acte. Alors, je suis restée un peu sur ma faim parce que je trouve qu'on n'en faisait peut-être pas assez, je ne sais pas.
Il n'y avait pas d'entraide protestante à proprement parler ?
Si, il y avait déjà une entraide intra-église. Mais je trouve que par rapport à la taille de l'église, l'entraide aurait pu être un peu... Elle pourrait. Mais j'étais la première. On aurait pu faire mieux. On peut toujours faire mieux.
On peut toujours faire
mieux,
bien sûr. Mais bon, c'est déjà pas mal de faire quelque chose.
Oui, je peux toujours dire ça. Moi, je suis restée un peu sur ma faim. Voilà.
D'accord.
Mais il faut bien reconnaître que rien n'est parfait et que tout est perfectible.
Et alors, en plus de tout ça, vous avez quand même trouvé le temps d'être aumônière. On dit aumônière ou aumônier ?
Maintenant, on peut dire aumônière.
Aumônière,
c'est autre chose, l'aumônière. Donc,
c'est quoi une aumônière ?
C'est un machin qu'on passe dans les rangs pour ramasser de l'argent.
Ah oui, une quêteuse.
Voilà.
Oui.
Non, c'est le panier, en fait.
Oui, c'est ça. On dit aussi une quêteuse.
Je sais pas.
C'est une question de vocabulaire, il faudra vérifier. Mais enfin bon.
Moi, j'étais aumônier.
Bon,
voilà.
Aumônier. Alors, vous avez été aumônier de prison pendant 4 ans.
Oui.
Et est-ce que ça a modifié votre rapport à la foi, à la prédication ? Comment on peut annoncer l'évangile, la liberté, aux gens qui sont derrière les barreaux ? Vous êtes un homme libre, mais non, je suis derrière les barreaux. Comment on fait ?
Ça remet tout complètement en cause. Qu'est-ce que c'est que la liberté ? C'est-à-dire qu'on peut être derrière des barreaux à l'extérieur et on peut être libre à l'intérieur.
Oui, mais est-ce qu'ils peuvent l'entendre ?
Oui, certains l'entendent. C'est-à-dire, quand on arrive à ce que certains l'entendent, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment là la force de l'évangile. C'est-à-dire qu'ils se sentent libérés et pas libres. D'ailleurs, j'aime pas le mot libre, en fait. Je pense que l'évangile nous libère et que, alors on dit nous rend libres, mais en fait, on est plus libérés parce que le mot libre, maintenant, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis avec les libertariens et tout, je veux dire, je me méfie beaucoup du mot liberté et du mot libre. Ce que j'aime, c'est la libération. Moi, je pense que l'évangile, la parole de Dieu, elle nous libère. Elle nous libère de la culpabilité. Elle nous libère de plein de choses et tout en nous rendant bien responsables. C'est-à-dire que être libéré, c'est pas être déresponsabilisé. Et ça, je pense que c'est vraiment un message extrêmement fort et important, justement dans ces milieux carcéraux où on est derrière les barreaux.
Alors, vous avez vécu des conversions,
J'ai vécu beaucoup d'échecs. Faut être honnête. Bon, c'est pas facile. Hein.
Non.
Oui, non, c'est doute. Compliqué. Beaucoup de joie, beaucoup de rigolade.
Ouais.
Beaucoup de difficultés avec l'administration, avec certaines personnes, beaucoup de mensonges. Faut reconnaître les choses.
Ouais.
Mais bon, c'est comme ça. Et puis quelques expériences formidables, justement de libération. Et du coup, au moment de la libération, il y a tout un travail qui se fait sur ce qui a été fait.
C'est-à-dire
pourquoi on l'a fait
au moment de la libération, c'est-à-dire.
C'est-à-dire que pour être libéré, il faut reconnaître ses fautes.
Oui.
Mais c'est vraiment le mouvement de la réforme, c'est-à-dire à la fois pécheur et pardonné. Et je pense qu'on a tous ce travail à faire. Évidemment, certains ont commis des crimes plus importants que d'autres. Mais bon, on n'est pas là pour juger quand on est en prison. Et c'est ce travail, justement, de se reconnaître... pas très bon, mais quand même pardonner. Parce qu'au fond de nous, il y a certainement une part un peu divine, certainement divine, qu'on a à rechercher. Et être libéré justement de la culpabilité complète. Mais pour être libéré de la culpabilité, il faut déjà savoir qu'on est responsable de ses actes. Je pense, j'emploie deux mots différents. C'est Georgina Dufoy qui a dit responsable, mais pas
coupable. Oui, je me rappelle.
Mais bon, en fait, tout le monde a rigolé, mais il y a quelque chose de très fort derrière ça.
Mais c'est une protestante aussi, mais bon, ça c'est annexe.
Voilà,
mais...
la responsabilité. Oui, oui. D'ailleurs, la liberté ne va qu'avec la responsabilité. D'ailleurs, je crois que la devise de l'église de Montpellier, à un moment donné, je ne sais pas si c'est encore le cas, c'était libre et responsable.
Ah ben, on verra, on va se renseigner.
Voilà.
Alors, merci Florence de ce témoignage sur la libération. Et merci à nos auditeurs que nous retrouverons la semaine prochaine. Merci à Léonie qui a bien voulu être notre technicien ou technicienne. Je ne sais pas, c'est comme aumônier, aumônière.
Bah non, mais technicienne, au moins, ça...
Bon, technicienne, ça va. Alors, n'oubliez pas de nous faire part, s'il vous plaît, de vos réactions à un protestant peut en cacher un autre @radiofmplus.org. Si vous avez aimé, si vous n'aimez pas, si vous avez des critiques, si vous avez des propositions. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous.
Un protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.